Bonjour tout le monde, bienvenue à l'antenne de BPM Sport. Merci d'être encore avec nous ce matin à 9h dans l'édition de la game. C'est Arnaud Gasconadon et Arnaud Pepperall à la mise en onde. Ne perdons pas trop de temps, c'est une semaine tennis au Canada. On s'en va rejoindre tout de suite Alex Régimbal et Hugues Léger, des gars du podcast sur la ligne. Salut les gars!
Salut Arnaud, comment te portes-tu?
Très bien, merci. Je vous laisse la parole pour la prochaine demi-heure. Parlez tennis, parlons tennis. C'est une belle semaine pour vivre ça.
T'es bien fait, mon gars. Merci. Ben oui, bienvenue à cette édition du 9 août, mercredi, du Café OBN, présenté par Nespresso. Je salue mon collègue à côté de moi, Hugues Léger. Ben, mine de rien, c'est une semaine qui commence à avancer. Il y a déjà plusieurs matchs qui sont terminés. Et ben là, on va commencer les matchs de deuxième tour et on va voir d'excellents matchs. Regardez les tableaux. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui ne seront pas intéressants d'ici la fin du tournoi.
Ouais, entrée en matière aujourd'hui avec les premiers favoris tant à Montréal que Toronto. Jviantek, Sabalenka, Rybakina, qui a un match à terminer aussi ce matin, seront en action. Alcaraz, Medvedev aussi en action à Toronto ce soir.
Alors, Alexandre Jabal et Hugues Léger en votre compagnie pour cette première demi-heure. Nous sommes les animateurs du Radio Podcast sur la ligne, d'ailleurs, numéro 1 au Canada, anglais, français confondus. C'est très régulièrement qu'on se retrouve à la première place au Canada et c'est effectivement le cas durant l'Omnium Banque Nationale. Et ben, on parlait avec hier le collègue Ben Rutherberg, qui est un ancien journaliste du New York Times. Il nous disait qu'avoir une émission de radio de tennis chaque semaine, il n'y a pas beaucoup d'émissions comme ça en Amérique du Nord. Et selon lui, c'était peut-être même une première. Enfin, il faudrait faire nos recherches. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de très, très rare.
Oui, on parle de radio mainstream ici. Ben Rutherberg, qui est un des grands journalistes, un des grands rédacteurs de tennis au niveau mondial. Donc oui, effectivement, notre présence audio est tout à fait innovante, je dirais, en Amérique du Nord en ce moment, avec Sur la ligne pour Tennis Canada.
Et les gens nous écrivent depuis le début de la semaine. On est toujours content de savoir ce que vous pensez et de jaser tennis avec vous. Vous ne gênez pas pour le faire. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires et vos messages. Bon, parlons de tennis puisque c'est notre mandat, mon cher Hugues. Commençons à tout seigneur, tout honneur avec Fernandez. Leila, Annie Fernandez, la favorite de la foule hier, qui a été particulièrement convaincante contre Stearns.
Ah, je le redis, j'ai vu la Leila de 2021 hier en action. Les deux pieds sur la ligne de fond, maîtriser la cadence de jeu, couper les angles, créative aussi au niveau de son jeu, son bon service de gauchère sortant du côté avantage. J'ai eu beaucoup de succès hier. Leila était en plein contrôle hier. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu jouer comme ça. Et elle était sur un nuage, et nous aussi en la regardant hier.
Et c'est intéressant parce que durant la diffusion du match hier, tu nous disais que tu l'avais observé durant la pratique et que tu la voyais pratiquer sa slice pour monter au filet. Ouais. Et c'est une stratégie qu'elle a utilisée à quelques reprises et qui a fonctionné.
Elle a utilisé beaucoup l'amorti hier. Donc, elle travaillait beaucoup sur ce coup-là. On sait que les amortis offensifs sont à la mode en ce moment. Alcaraz en a fait son pain et son beurre. Le surprend souvent avec cette tactique-là. Et c'est ce que Leila faisait. Elle l'a mis en pratique hier et ça a très bien fonctionné.
Je vous propose d'écouter ses commentaires d'après-match à Leila. Annie Fernandez qui est présentée devant les médias avec un beau sourire.
Oui, depuis longtemps, je pense depuis 2018. 2018, j'ai joué mon premier match de qualif. Alors, malheureusement, je ne me suis pas qualifiée, mais c'était un rêve de moi de gagner un match ici à Montréal en avant d'une foule complète, en avant d'une stade complète. Alors, je suis très contente d'avoir réussi mon objectif et j'espère de gagner un autre match. Oui, un peu de nervosité à la fin du premier manche, mais Peyton, elle a commencé à mieux jouer. Elle a fait moins d'erreurs, elle a commencé à frapper plus fort. Alors, pour moi, j'ai juste essayé de prendre ça un point à la fois. Quand j'ai une autre opportunité à 5-3, j'essaie juste de concentrer à la balle et pas vraiment au pointage. Puis, dans le deuxième set, je suis contente que j'ai pu calmer mes nerfs, spécialement vers la fin, quand on a commencé à mieux jouer. J'ai essayé de juste, comme j'ai dit, prendre ça un point à la fois, d'exécuter le plan de match et d'être la joueuse qui est plus offensive sur le court.
Salut Leila, je sais Bonjour. Que t'en as parlé en anglais, mais je veux avoir tes impressions sur ta prochaine adversaire, le Béatrice. C'est quand même un gros match qui t'attend demain.
Oui, c'est un gros match. Elle est une très bonne joueuse. Elle a une année incroyable, des bons résultats. Elle a beaucoup de confiance. Alors, je vais juste essayer de prendre ça un point à la fois. Je vais parler avec mon entraîneur, voir c'est quoi le plan de match, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je veux exécuter. Et on va essayer d'exécuter le plan de match le plus possible.
Alors, c'était Leila Annie Fernandez. Vous avez entendu sa dernière clip sur sa prochaine adversaire, qui est Béatrice Haddad-Maia. Et ça, Hugues, je suis particulièrement excité pour ce match-là, ouais, parce que Béatrice Haddad-Maia, c'est elle qui avait mis fin au tournoi de Leila Annie Fernandez il y a un an à l'Omnium Banque Nationale, disputé à Toronto. Alors, c'est l'heure de la revanche, ouais, pour Leila Annie Fernandez.
Finaliste à Toronto l'année dernière, Béatrice Haddad-Maia, qui est 11e favorite du tableau à Montréal cette année. Joueuse qui connaît beaucoup de succès, effectivement. Par contre, je mets encore ce point-là sur la table. Leila doit aller chercher ces matchs-là en ce moment. Si on veut qu'elle remonte au classement, elle doit avoir des victoires contre des top 20, top 15. Béatrice Haddad-Maia est une joueuse qui va être très difficile pour elle aujourd'hui, mais qui est prenable. Et c'est ça qui va faire que la remontée va s'amorcer pour Leila. Leila est 88e au monde. Oublions pas qu'après sa finale au US Open en 2021, elle est montée au 13e rang. Donc moi, c'est dans cette référence-là que je veux regarder pour une victoire qui va déclencher, là, un tremplin pour le reste de la saison. Donc, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Elle est là avec l'attitude qu'elle avait hier. Je m'attends à de belles choses sur le central aujourd'hui.
Bien, je vais dire une chose. De la façon dont elle a joué hier, si elle apporte le même niveau d'intensité, le même, oui, niveau de... à quel point elle a été convaincante sur, oui, le terrain, elle va se donner des chances de gagner.
Et elle avait un plan. On en parlait. Son plan, je l'ai vu durant son réchauffement du matin hier. Mm-hmm. Elle l'a mis en pratique à perfection. Elle l'a exécuté à la perfection en après-midi. Donc, je m'attends à ce qu'elle ait la même approche pour Haddad-Maia aujourd'hui. Leila arrive avec une réflexion pour tous ses matchs et elle sait exécuter. Et le fait qu'elle a beaucoup de confiance et t'ajoute l'amour du public à ça lui donne pour moi des bonnes chances de gagner encore.
C'est une excellente joueuse, Béatrice Haddad-Maia. Il ne faut pas se tromper. Elle a quand même deux demi-finales importantes cette année à Abu, oui, Dhabi et à Roland-Garros, qui n'est pas banal notamment. Oui. Elle a un quatrième tour à Wimbledon et elle a plusieurs quarts de finale, dont un quart de finale à Rome, qui est un niveau 1000 également sur terre battue. Alors, c'est une fille qui connaît une bonne saison, qui a deux titres sur le circuit. Elle est 12e mondiale. Cela dit, même si Leila s'est fait battre il y a un an à Toronto, c'est une fille qu'elle a déjà battue dans le passé et il n'y a, voilà, pas si longtemps. Elle l'avait battue à Monterey en mars 2022. T'es pas vieille, Leila Fernandez, en 2002. En mars 2022 à Monterey. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite, Hugues? Leila a remporté le tournoi. Alors, si Leila bat Béatrice Haddad-Maia et qu'elle a passé garant de l'avenir, on peut rêver.
Oui, oui. Et encore une fois, c'est une grosse commande, mais Leila, vous avez vu avec quelle attitude elle aborde son tournoi cette année. Donc moi, je pense qu'on va se régaler de ce match-là. Ça va être un match bonbon. Et Leila a peur de personne. N'oubliez pas que pour gagner l'US Open, elle avait battu Sabalenka, elle avait battu Osaka, elle avait battu Svitolina. Donc, mm-hmm, elle peut se mesurer aux meilleures joueuses au monde, Leila Fernandez.
Ça n'a pas été autant de succès du côté de Bianca Andreescu. Mm. On l'attendait en, oui, grande pompe. On la sentait prête. On la sentait, oui, hargneuse. On lui avait parlé avant la rencontre. Et moi, je te disais, j'ai un bon feeling pour Bianca. C'est ici que ça va se passer. La machine va repartir, mais ce n'est pas ce qui est arrivé.
Grande vague d'amour pour l'arrivée de Bianca Andreescu sur le central hier soir, le match vedette, mais ça n'a pas été suffisant pour la porter. Il y a eu, je dirais, une guerre de tranchées dans les premiers jeux. Je vous disais, les gars, les deux joueuses veulent s'imposer comme boss au niveau de la cadence. Mm-hmm. Deux grosses cogneuses. Avec Georgie, habituellement, ça passe ou ça casse. Hier soir, ça passait. Et la boss sur le terrain hier soir, c'était Camila Georgie, championne en titre. Très, très, très belle victoire et très nette victoire de Georgie hier soir.
C'est l'expression qu'elle a utilisée en conférence de, voilà, presse par ailleurs. Et je vous propose d'écouter une clip de Bianca Andreescu parce que, bon, nous autres, on s'est dit, on la sentait en santé. C'est peut-être pas exactement ça. C'est ce qu'elle a confirmé hier en conférence de presse.
It's hard when I keep getting asked this question, like if I'm healthy, like what's going on. And in a way, I am, but I'm not. Last week, during my match in Washington, I experienced some back pain, some SI joint pain, to be exact. And I've had this before. I've had to deal with it many times, actually. And it got better for a few days, and then, you know, I started playing again, and then obviously I felt some irritation, but I saw some light at the end of the tunnel. But with SI joint pain, it's very difficult because it's nothing very serious, but if you do push, you do feel a lot of pain, and that's what I experienced
one of the days practicing before the tournament, and then, you know, practice and competing in a tournament is totally different. So obviously today I felt it a bit more, and it did impact my performance, sadly. So yeah.
Bon. Ce qu'elle a mentionné, Bianca Andreescu, c'est de dire, bon, c'est difficile pour moi de répondre si je suis blessé ou pas, parce que la vérité, c'est que je suis relativement en forme, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle a certains inconforts qui, par moment, la dérangent plus ou moins. Et là, ben, visiblement, ça l'a dérangé. On s'en parlait durant la production hier du match en direct, que j'avais remarqué qu'elle avait un taping dans le bas du dos, et c'est ce qu'elle a confirmé, qu'elle avait des douleurs dans le bas du dos, Bianca Andreescu. Et je pense que ça l'a affecté hier contre une fille qui arrivait avec beaucoup de rythme, 2 victoires en qualification, une ancienne championne du tournoi, Camila Giorgi.
Ça, c'est un point important. Le fait que Camila Giorgi avait 3 matchs derrière la cravate déjà, évidemment, c'est la championne en titre. Elle a des points à préserver. Elle a un trophée à garder même, je dirais.
Ben voilà.
Donc, elle arrivait avec un momentum, avec un rythme et ce fait d'avoir quelques matchs en qualif, des fois, c'est un vrai avantage. Et on l'a vu hier, elle maîtrisait parfaitement son art. Elle frappait à 100 000 à l'heure hier et tout rentrait dans le terrain. Elle a vraiment bien joué, Giorgi.
C'est dommage parce que la première partie du premier set était hyper divertissante,
oui.
La cadence des échanges.
C'était chaud, c'était très serré.
C'était très serré, mais Giorgi a vraiment pris l'ascendant à partir du milieu du premier set. Elle n'a plus regarder derrière, comme le dit l'expression consacrée dans le monde du sport.
Et Bianca a eu des chances de breaker, dont un jeu à 0-40. Il faut conclure dans ce temps-là. Et 3 services au revers de Bianca qu'elle n'a pas réussi à maîtriser. Et c'est là, je dirais, que le match s'est joué. Giorgi a bien vu que Bianca ne pourrait pas la menacer et la breaker hier soir. 5 balles de break sauvées par Giorgi.
Oui, qui a eu du caractère. Et elle a une bonne première balle, Camila Giorgi, en dépit de sa petite stature.
Oui.
Là,
sa première balle,
elle rentre quand même.
Oui.
Et elle a confirmé aussi, Bianca Andreescu, qu'elle doutait qu'elle allait jouer à Cincinnati. On devrait l'avoir au US Open, de ce que j'en comprends, mais stand-by, comme on dit, parce que, on n'est jamais sûr avec l'historique de blessure de Bianca Andreescu. Alors, c'est terminé pour la Canadienne, c'est dommage. Elle voulait remporter au moins plus de 3 matchs dans un tournoi, mais ça ne sera pas ici. C'est une 2e défaite à son premier match lors des 2 derniers tournois. Elle était sortie rapidement à Washington également. L'autre histoire de la journée, pour terminer ce premier bloc, Hugues, c'est Caroline Wozniacki, hier, qui effectuait son grand retour, cette grande championne que jouer son premier match sur le central hier devant une foule qui était bien contente de la revoir.
Avec la chanson Sweet Caroline qui l'accueillait. Bon retour, Caro, déployé cette banderole par Tennis Canada. Écoute, ils ont déroulé le tapis rouge là, pour le retour sur le circuit après 3 ans de Caro Wozniacki. Écoute, et en grande forme. Donc, la foule l'a accueillie en chantant, l'a célébrée. Et ma foi, je pense qu'elle peut être menaçante encore. Donc, grande performance. Si on se doutait, on disait, est-ce qu'elle est en forme? Qu'elle n'est pas en forme, elle est prête à compétitionner au plus haut niveau, Wozniacki.
Une victoire de 6-2, 6-2 contre Kimberly Birrell, et je vous propose d'écouter ce qu'elle avait à dire après la rencontre.
Well, I'm happy, a little tired, and just it was fun to be out there again, playing on center court in front of a big crowd, and I'm just thrilled that I could win my first match in 3.5 years. I didn't really know what to expect, to be honest. You know, you have all these things in your head that this is how you're supposed to be playing and you're supposed to be doing this and that. But to be honest, I had no idea what I was going to come up with when I was out there on court because I just haven't played a real match in so long. So for me, it was all about just, you know, not getting down on myself if I made a mistake and not get too excited when I hit a good shot. So it was just kind of evening out those emotions and, you know, I think everything taken into consideration, I'm very happy with how I played today and how I got through. It's not easy to win a match, and it's definitely not easy when you haven't played one in so long.
On sentait tout le sourire dans la voix de Caroline Wozniacki, une passionnée de son sport qui était contente de revenir au jeu.
Les gens ont apprécié la revoir, elle a apprécié revoir les gens. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle Sunshine, elle est rayonnante sur un terrain de tennis, Caro Wozniacki.
Et c'est un plus pour le tennis de la voir. Elle a été excellente hier, mais là on va avoir une vraie idée de son niveau de jeu parce qu'elle va affronter la championne de Wimbledon. Et s'il faut qu'elle chauffe la championne de Wimbledon, ça va nous en dire long sur le niveau de son jeu alors qu'elle n'avait pas joué en 3 ans et plus. Alors déjà, c'est une performance spectaculaire. Nous, Hugues, on va s'arrêter quelques instants et au retour, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Toronto.
BPM Sport, en direct de l'Omnium Banque Nationale, présenté par Rogers.
De retour au stade IGA, Alex Régimbald et Hugues Léger en votre compagnie pour le Café OBN présenté par Nespresso. C'est cette émission matinale où on met la table pour la journée de tennis ici au Parc Jarry et à Toronto. Et justement, allons faire un tour dans la Ville-Reine. On salue le collègue Nicolas Richard qui, semble-t-il, a eu une nuit compliquée. Alors, bon rétablissement, mon cher Nicolas Richard, on pense à toi. Un pour lequel ça n'a pas été compliqué, ou en tout cas beaucoup moins compliqué que ce qu'on aurait pu envisager, c'est Gabriel Diallo qui, après avoir vu Milos Raonic créer la surprise, en a créé une, peut-être pas de la même amplitude, mais pas loin.
Ben, c'est pas le même contexte, en fait. Là. Si on parle de Milos avec son retour, pour Gabriel, c'est une jeune carrière professionnelle qui se met en place. On sait qu'il a fait un choix en fin d'année 2022 d'arrêter sa carrière en NCAA avec l'Université du Kentucky pour se concentrer sur le circuit professionnel. Et hier, il a eu sa plus grande victoire en carrière professionnelle contre Dan Evans, champion la semaine dernière à Washington et demi-finaliste l'an passé à Montréal. Donc, pour Gabriel, c'est un moment vraiment important de sa carrière. Là, il sait maintenant qu'il peut rivaliser avec des top 20 au monde.
Ben c'est ça. Tu fais bien de le mentionner. C'est un gars qui est tout près de la place du top 20 mondial. Il est 21e mondial. Exact. Présentement, c'est son meilleur classement en carrière. Il arrivait tout juste d'une victoire et on sait comment c'est dangereux un joueur qui arrive avec un titre, avec beaucoup de rythme, beaucoup de confiance. Et c'est un gars qui connaît relativement une saison quand même intéressante. Il a quelques bons résultats, notamment à Barcelone, demi-finale. Mais écoute, c'est une grande victoire pour Gabriel Diallo et honnêtement après ça tu te dis est-ce qu'il peut créer d'autres miracles, parce que là ça va être demain contre Alex de Minaur, aujourd'hui contre Alex de Minaur, et Alex de Minaur c'est un des meilleurs joueurs au monde,
et là ça va être que du bonus après. Ce que Gabriel Diallo a dit en conférence de presse hier, il dit cette victoire là va changer ma vie. Donc pourquoi? Parce que les bourses, le classement, il va probablement être dans les tableaux de qualif de tous les grands chelems au minimum, mais là il va se rapprocher du top 120. Donc c'est ça vraiment une victoire qui change sa vie, et effectivement pour le reste du tournoi à Toronto ça va être du bonus.
Tu parlais de son point de presse, je vous propose d'écouter un extrait de cette entrevue-là qu'il a donnée aux médias par la suite.
C'est sûr qu'en entrant sur le terrain j'étais nerveux, excité, pas trop à quoi t'attendre. J'ai jamais joué à Toronto, je sais pas comment le public est ici, mais non, le public est phénoménal des deux côtés. Il y avait énormément de personnes qui encourageaient mon adversaire aussi, donc ça c'était le fun. C'était pas juste sur moi, parce que des fois ça tu peux sentir un peu que la pression est toute sur toi, mais non, le public a été super fair play, mais évidemment j'ai eu un peu plus de support, mais non, c'était une très belle expérience que je vais me rappeler pour le reste de ma vie. Mais j'essaie de me donner beaucoup d'énergie, puis prier un peu aussi, parce que j'en avais marre un peu que je me fasse briser à chaque fois que je menais par un bris, mais non, j'essaie d'avoir un plan clair, où est-ce que je voulais servir, puis qu'est-ce que je voulais faire avec la balle qui venait. Puis après, j'essaie de jouer avec mes instincts, puis ce qui a différencié le jeu à 6-5 des autres jeux, c'est que j'ai joué un jeu très agressif. Je suis monté au filet, j'ai dicté les échanges, ce que je n'ai pas fait le jeu, je me suis fait briser, donc je pense que c'est là qu'elle a été.
Tellement plaisant d'entendre un sympathique garçon comme Gabriel Diallo qui s'exprime tellement bien, qui est par ailleurs tellement sympathique. Il va être à suivre, lui, parce qu'il se rapproche dangereusement des classements pour peut-être jouer des grands chelems.
Oui. Oh oui, tout à fait. Un gars de Villeray, je tiens à dire. Il a grandi tout près d'ici. Ses parents habitent toujours dans Villeray.
C'est un produit de Tennis Montréal?
Exactement.
J'ai le DG de Tennis Montréal à mes côtés. Voilà, c'est dit. D'ailleurs, on va revenir sur Tennis Montréal un peu plus tard. Mais avant ça, je veux qu'on parle de Félix Auger-Aliassime. Les tournois se suivent et les tournois se ressemblent. Et je commence à avoir de la difficulté à trouver du positif.
Aucune victoire depuis le mois de mai. 9 sorties à son premier match, à ses 11 dernières sorties. Donc, 9 défaites là, sur ses 11 dernières sorties. Ça devient vraiment compliqué. Félix, et j'en parlais plus tôt en onde, il va falloir qu'il aille chercher de l'aide aussi. Là c'est un enjeu qui semblait plus mental que le problème de blessure qu'il a apparemment réglé, même s'il est un peu incommodé encore. Mais j'ai envie de dire, comme tous les joueurs sur le circuit. Ouais. Donc, il faut qu'il trouve une façon de trouver des clés pour réapprendre à gagner et retrouver de la confiance. Notre Félix, pour qui c'était son anniversaire en plus hier, donc dure journée à plusieurs égards.
Ouais, c'est vraiment dommage. Une défaite de 6-4 contre Max Purcell. Il aurait pu se donner une opportunité d'affronter Andy Murray. Ça aurait été incroyable d'avoir Félix contre Andy Murray. Malheureusement, ce sera Purcell qui a battu d'ailleurs trois Canadiens déjà dans ce tournoi-là. Peter Polanski, Braden Schnur et maintenant Félix Auger-Aliassime. Merci Purcell d'avoir ruiné le tournoi pour ces Canadiens-là. Je suis sûr que tu as fait le bonheur de certains fans australiens, mais moins le bonheur de certains partisans à Toronto. Je veux qu'on parle aussi rapidement de Milos Raonic qui va affronter Taro Daniel ce soir. Ironiquement, son adversaire est plus accessible que son premier, Francesc Tiafo, qui est au top 10 mondial.
Oui, le Japonais Taro Daniel, effectivement, un peu comme Gabriel, Milos aura moins de pression à quelque part ce soir. Moi, je m'attends à ce qu'il livre une très bonne performance. Là, je crois qu'il aura bien récupéré de son match parce qu'on le sait, il s'est remis en forme, il a perdu du poids, Milos, il est dans de bonnes dispositions et son jeu, ma foi, fonctionne. On retrouve le Milos d'il y a 10 ans. Donc, j'ai bien hâte de voir son match ce soir.
Alors, ça va être intéressant à suivre ça, Milos Raonic. Et en terminant, Hugues, j'ai mentionné le fait que tu étais directeur général de Tennis Montréal. On développe beaucoup de talents de tennis sur la Rive-Nord et sur Montréal. Et on va recevoir un invité qui a travaillé avec des joueurs qu'on connaît bien.
Ben, demain, on va recevoir Sébastien Prieur, qui est le directeur technique de Tennis Montréal, qui a contribué largement au développement de Leila Fernandez, de Gabriel Diallo, d'Alexis Galarneau aussi. Ils sont tous passés par Tennis Montréal, par nos programmes Espoir et Sport-Études. Donc, il pourrait parler un peu du développement des joueurs au plus jeune âge et pourquoi on forme des champions comme ça à Montréal.
Ben, ça va être, j'ai l'impression, bien intéressant. Voilà ce qui complète cette édition du Café OBN présenté par Nespresso. C'était Alex Régimbal et Hugues Léger. Votre compagnie. Je salue Zach à mes côtés qui nous a aidés et Arnaud en studio. Et moi, je vous rappelle qu'on va se retrouver un peu plus tard pour diffuser le match de Leila Annie Fernandez contre Béatrice Adan-Maia. C'est l'heure de la revanche, mon cher Hugues. Et sur ce, je repasse la rondelle à Arnaud Gascon-Nadeau. Bye tout le monde.
BPM Sport, en direct de l'Omnium Banque Nationale, présenté par Rogers.